marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. Le thème de nos rediffusions cette semaine, des arts.
Grâce au miracle de la radio, la musique de Berlioz revient dans sa maison familiale.
Hector Berlioz et la France.
26 mai 1848. Mon cher duc, il faut avoir un drapeau tricolore sur les yeux pour ne pas voir que la musique est morte en France maintenant, et que c'est le dernier des arts dont nos gouvernants voudront s'occuper. Sans l'Allemagne, la Bohème, la Hongrie et surtout la Russie, je serais mort de faim en France 1000 fois.
À ceux qui lui reprochaient d'être ingrat vis-à-vis de son pays, Berlioz répondait « Mais non, je me plais en France. Quand j'y arrive, la veille du jour où je peux en partir. » En réalité, il reprochait aux Français d'être injuste à son endroit. Certes, ce qu'il produisait pouvait être coûteux à monter, mais à l'étranger, on lui donnait davantage de moyens. Tandis qu'ici, il avait l'impression d'en être toujours de sa poche. Il dénonçait tour à tour la bureaucratie de l'administration des Beaux-Arts, l'hostilité irréductible des directeurs de théâtre, et particulièrement de l'opéra, cette boutique à faire de l'argent et non de l'art. Les multiples écrits de Berlioz ont beaucoup contribué à forger cette image d'un personnage constamment douloureux, fiévreux. Mais c'était au journal des débats un critique généreux, prêt à chercher chez les autres le génie qu'il avait en lui, un mémorialiste souvent souriant et un ami qui pouvait éclater d'un rire homérique. Guizot, son confrère de l'Institut, le décrit ainsi en 1862, à la veille de la création de son ultime opéra, « Les Troyens ». Un monsieur maigre, la tête couverte de cheveux ébouriffés, l'œil perçant, c'est un sincère, point bavard, mais au moment où son enthousiasme le saisit, il devient alors fécond et éloquent. Il est vrai que Guizot le croque à un moment favorable. Lui-même n'est plus Premier ministre depuis longtemps et ne peut donc plus attirer les foudres du compositeur. Quant à Berlioz, il n'est pas encore submergé par la colère que provoquera chez lui l'année suivante l'impossibilité de créer les Troyens dans leur totalité. Les Béotiens lui diront « Trop cher, trop long, quoi ? 4h30, issu d'un travail sans répit. » La France, depuis, fait réparation à de multiples reprises, par exemple en 1969 avec toutes les productions du centenaire de sa mort et en 2019, avec une année Berlioz qui rayonnera d'ailleurs sur quasi toute l'Europe occidentale et qui commence à Paris à l'Opéra Bastille, qui donne Les Troyens, cette fois en intégrale.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bruno Messina, bonjour.
Bonjour.
Venu de l'Isère, vous habitez tout près de la côte Saint-André, où vous animez le festival Berlioz annuel. Et vous animez aussi l'année Berlioz qui dépasse et de loin l'Isère et la côte Saint-André. Vous êtes venu à Berlioz après des études d'ethnomusicologie et puis la pratique de plusieurs instruments, dont certains javanais. Et d'ailleurs, vous vous êtes mis en tête de raconter le village et les sons du village, la côte Saint-André, où il a passé son enfance et son adolescence, dont on sait pas grand-chose.
Non, on ne sait pas grand-chose. C'est vrai que c'est un grand mystère, Berlioz, entre 0 et 18 ans. Et donc, il fallait reconstituer un petit peu la vie d'un village de l'Isère au lendemain de la Révolution. Et donc, j'ai travaillé un peu comme un ethnologue. J'ai voulu que Berlioz soit un Indien dans son village pour qu'on arrive à comprendre un petit peu la matrice de l'œuvre de Berlioz. Et donc, il fallait reconstituer la vie du village, ses fêtes, ses danses, ses processions, tout ce qui finalement ensuite se retrouve dans son œuvre.
Alors c'est parmi les plus belles pages du livre que vous consacrez à Berlioz, c'est chez Actes Sud, et ça porte juste le nom du compositeur. Il est d'une famille établie,
oui.
Sa mère n'est pas une chaude partisane du choix qu'il fait. Son père, oui, qui lui est cher, oui, et qui l'a initié à la musique, aurait préféré qu'il continue des études de médecine pour prendre un peu sa suite. Mais il va avec acharnement se consacrer à Paris à la musique et passer le concours du Prix de Rome une fois, deux fois, trois fois.
Oh oui, quatre fois, cinq fois. Oui, il va échouer la première fois, il est même pas sélectionné. Et puis finalement, il va réussir pas au bon moment. C'est en 1830 et puis ça va être juste suivi du succès de la Symphonie Fantastique, un de ses plus grands succès en France. Et il va devoir, pauvre homme, partir à Rome.
Oui, alors Rome, c'est une caserne académique. On dit toujours, oui. Berlioz, il ne se consacre qu'à sa musique, c'est pas un homme de plaisir. Mais alors, l'ethnomusicologue, l'amateur de bal, je veux dire, oui, de chansons populaires que vous êtes, lui, cherche les plaisirs de Berlioz.
Il y a deux Italies pour Berlioz. En effet, il y a la caserne académique, il y a cette musique au kilomètre qui se fait, qui ne l'intéresse pas beaucoup. Et puis, il y a en effet l'Italie rurale, où il va chasser, où il va se promener, où il entend de la mandoline, où il entend les piferari, ce qui est les marchands ambulants qui descendent avec leurs musettes, etc. Donc tout ça va imprégner sa musique. Et on retrouve dans Harold en Italie, notamment des scènes de danse qui sont très inspirées des musiques traditionnelles italiennes.
Oui, mais à Paris, où il a donc été assuré du succès de la Symphonie Fantastique. Qui trouve-t-il souvent en faveur des musiciens italiens, Rossini qu'il déteste, et Cherubini qui est à la tête du Conservatoire de Musique de Paris.
Une place de professeur d'harmonie étant devenue vacante au Conservatoire, sans me bercer d'un espoir de succès, j'écrivis néanmoins à ce sujet à notre bon directeur. Cherubini, au reçu de ma lettre, me fit appeler.
Vous vous présentez pour la classe d'harmonie, me dit-il de son air le plus aimable et de la voix la plus douce qu'il put trouver. Oui, monsieur. Ah, c'est que vous l'aurez, cette classe, et votre réputation maintenant, vos relations. Tant mieux, monsieur, je l'ai demandé pour l'avoir. Oui, mais c'est que ça me tracasse, c'est que je voudrais la donner à un autre. En ce cas, monsieur, je vais retirer ma demande. Non, je ne vais pas, parce que, voyez-vous, l'on dirait que c'est moi, que c'est sous la cause et que vous êtes retiré. Alors je reste sur les rangs. Mais vous savez qu'il faut être pianiste pour enseigner l'harmonie au conservatoire. Vous le savez, mon cher. Il faut être pianiste. Ah, j'étais loin de m'en douter. Eh bien, voilà une excellente raison. Je vais vous écrire que n'étant pas pianiste, je ne puis pas aspirer à professer l'harmonie au conservatoire et que je retire ma demande. Oui, mon cher, alors embrassez-moi, vous savez comme je vous aime. Hein? Oh, oui, monsieur, je le sais. Et il m'embrasse, en effet, avec une tendresse vraiment paternelle. Je m'en vais, je lui adresse mon désistement, et 8 jours après, il fait donner la place à un nommé bien-aimé qui ne joue pas plus du piano que moi.
Marie-Yvonne de Saint-Pulgent avec Emmanuel Lemire a adapté les mémoires de Berlioz.
Oui. Là, absolument. Alors c'est un cas dans l'histoire de la musique parce que au XIXe siècle, ils sont tous pianistes et Berlioz est guitariste. Il a commencé par hasard avec une flûte de berger à l'âge de 12 ans. À 15 ans, il passe à la guitare et c'est vrai qu'il n'aura que des rudiments de piano. Alors cette classe d'harmonie va lui être refusée. Il va en être très malheureux. La classe de composition lui sera encore plus refusée. Il n'aura qu'un poste au Conservatoire de Paris de bibliothécaire adjoint. Rendez-vous compte par rapport à l'immense musicien qu'il est. Donc il a eu des rapports tumultueux avec Cherubini, mais qu'il raconte avec énormément d'humour dans ses mémoires, dans ses chroniques.
Bah, immense, oui, parce que les émoluments que touchera au conservatoire Berlioz seront toujours fort modestes.
Oui.
Ce qu'il veut, souvent, ce sont des compositions qui nécessitent beaucoup de moyens. Cherubini vous ferait des requiems académiques pour peut-être un peu moins.
Thank you.
Rex Tremendae du Requiem de 1837, de Berlioz dans la version de Charles Munch qui a fait beaucoup pour Berlioz. Alors, vous êtes, lui demande le chancelier Metternich, le chancelier autrichien, cet homme qui compose pour 500 musiciens, à quoi Berlioz répond, mais monseigneur, parfois pour 450.
Oui, il a toujours des effectifs, pas toujours d'ailleurs, mais en tout cas il est resté dans l'histoire pour ça, parce qu'il a eu des rêves démesurés et certaines de ses œuvres nécessitaient des chefs relais, tellement les effectifs étaient importants, ou alors il dirigeait avec le sabre pour être vu de loin. Mais c'est aussi un homme de la délicatesse, avec les nuits d'été ou avec l'enfance du Christ, Berlioz, il est capable aussi de petites formes. Mais ses grandes formes étaient très impressionnantes, et pour le Requiem par exemple, dont on a entendu un extrait, il avait inventé une sorte de spatialisation, la quadriphonie. Il y avait orchestre face au public, mais il y avait aussi quatre petits orchestres de cuivre qui l'entouraient et qui saisissaient. C'était le home cinéma déjà qu'il inventait pour la musique.
Mais entre nous soit dit, pour monter d'aussi grandes œuvres, il faut des commandes publiques, oui. Le retour des cendres de Napoléon, le festival de l'industrie, l'inauguration de la ligne de chemin de fer Paris-Bruxelles, les expositions universelles, etc. Mais ça lui coûte souvent plus d'argent, peut-être que ça lui rapporte, parce que l'État ne paye pas toujours rubis sur l'ongle. Donc, une de ses activités, c'est une ligne de fond, c'est l'activité critique, l'édition des papiers au Journal des débats ou à la revue musicale de Berlioz n'est pas encore achevée, c'est 900 ou 1000 articles.
C'est énorme ce qu'il a pu écrire, et c'est d'ailleurs aujourd'hui encore un trésor extraordinaire pour analyser la musique du 19e siècle, parce qu'il écrit de très belles choses, il écrit très bien d'ailleurs, hein. Il a une vraie plume d'écrivain, Berlioz, pas seulement dans les mémoires, mais aussi dans ses critiques musicales. Alors il va commenter tout le 19e siècle, en tout cas de 1830 à sa mort à 1869, on a à peu près tout qui nous est raconté par Berlioz, et notamment en effet ces grands événements, comme l'exposition de l'industrie, les premiers festivals, toutes ces choses-là, et on voit Berlioz nous parler des Indiens ou des Chinois, que personne n'avait commenté jusqu'alors dans l'histoire de la musique. Donc c'est à la fois l'opéra, dont il se moque souvent, c'est à la fois ses confrères, ses contemporains, pour qui il n'a pas toujours beaucoup d'estime, et il le raconte de manière très drôle, par exemple dans les soirées de l'orchestre, mais c'est aussi des événements qui sont de l'ordre de la science et des avancées techniques de son temps. Il y a même des nouvelles de science-fiction chez Berlioz, 2344, Euphonia.
Une nouvelliste aussi. Ah ben, tout ça, ça lui rapporte un peu d'argent qui lui est nécessaire pour entretenir deux ménages. Pardonnez-moi de parler de ça parce que c'est quand même pas complètement anecdotique. Oui. Vous insistez beaucoup sur le ressort amoureux chez Berlioz. Il s'affiche à partir de 1841 avec une chanteuse qui s'appelle Maria Recchio, mais n'y a-t-il pas derrière, depuis 1833, une épouse, une grande actrice shakespearienne venue d'Angleterre?
Je suis Madame Berlioz.
Oh, Madame Berlioz, quelle joie! Tout le monde ici connaît l'admirable symphonie fantastique. Quel honneur d'accueillir l'aspiratrice.
Colonel, je ne suis pas Miss Smithson.
Madame est ma seconde épouse.
La première, Madame Berlioz, est morte.
Toutes mes condoléances. Félicitations, Monsieur Berlioz. Madame Berlioz.
Mon nom d'artiste est Marie Recchio. Ça ne vous dit rien, non?
La première Madame Berlioz, quoique délaissée, était toujours bel et bien vivante.
Eh bien, que se passe-t-il? Ariel, je t'en supplie. Ma vie n'est pas facile en ce moment. J'ai besoin de calme, de réflexion. Il ne s'agit pas seulement pour moi de composer, j'ai aussi à écrire des articles. Ça ne m'amuse guère, mais c'est ce qui nous fait vivre.
Tu appelles ça vivre, toi? J'ai envie de vivre, justement, de revivre.
Extrait du film La vie de Berlioz de Trébouta avec Daniel Mesguich dans le rôle principal. On a entendu Ariette qui parlait assez mal français. C'était une grande actrice shakespearienne qui avait beaucoup de succès à Londres et qui, venue après avoir épousé Berlioz à Paris, s'est trouvée sans rôle. Délaissé.
C'est ça. Il lui a fait la cour pendant très longtemps.
À moitié paralysé.
Oui, c'est ça.
Chacun joue sa partition, là, vous et moi.
1827, 1828, il la voit, actrice shakespearienne. C'est une star, Ariette. Il a très envie, il est très amoureux. D'ailleurs, elle est impressionnée par ce garçon un peu rustre qui va lui faire une cour effrénée comme ça. Et c'est finalement au moment où elle est un petit peu dans le déclin, en 1833, qu'elle va accepter enfin de se marier avec lui. Et ça va se passer à l'ambassade d'Angleterre à Paris. Paris. Et après, Berlioz, bah, finalement, vous voyez, c'est quelqu'un qui fantasme, qui rêve. Il rêvait d'une Marie, d'une Ariette idéale, qui était à la fois Ophélie, qui était à la fois Juliette, qui était à la fois tous les rôles shakespeariens. Et puis, il va pas être un très bon mari, ni un très bon papa. On entend dans l'extrait, là, un petit bébé qui pleure. C'est le petit Louis, qui sera son fils, qui deviendra marin au long cours. Et Berlioz va commencer une histoire en parallèle avec cette chanteuse d'origine espagnole. Et pendant très longtemps, il va le cacher. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'en parle pas dans les mémoires qu'il a commencé à écrire alors que Marie était encore vivante.
Ce sont les deux ailes de l'amour. Non, la citation, il faut l'entendre à bon escient. L'amour ne peut pas donner une idée de la musique. La musique peut en donner une de l'amour. Pourquoi séparer l'une de l'autre? Ce sont les deux ailes de l'amour.
C'est très beau, c'est très berlioziens. Il y croit vraiment, je crois. Il y a vraiment tout au long de sa vie ce moteur amoureux chez lui qui est très fort.
Et c'est l'avantage avec Marie, c'est qu'il peut voyager. Et alors, je vois la carte des concerts Berlioz dans l'année Berlioz que vous animez. Ben c'est pas mal, hein. Au moins en Europe occidentale. Quels étaient ses pays préférés où il arrivait comme chef en produisant son répertoire?
Alors ça a été l'Allemagne, beaucoup. Les voyages de Berlioz en Allemagne sont extraordinaires. Il a été aimé partout. Il a joué à peu près dans toutes les grandes villes d'Allemagne, excepté Munich. Ça a été la Russie, où il s'est refait après l'échec de la Nation de Fosse, sur le conseil de Balzac, qui lui disait « tu vas refaire ta fortune ». Et c'est vrai, il va être accueilli par le tsar, il va avoir une fortune immense en Russie. Et il va être un peu le papa de l'école russe, le papa du groupe des cinq, avec Moussorski, Rimsky-Korsakov. Ils vont s'inspirer de son traité d'instrumentation. Ils ont besoin d'un modèle, les Russes, pour échapper au modèle prussien ou au modèle italien qui écrase l'opéra. Et ce modèle, c'est finalement Glinka qui va aller chercher dans les thèmes traditionnels de la Russie, et Berlioz qui leur amène un modèle d'orchestration. Donc il y a la Russie, il y a l'Allemagne, il y a la Hongrie, enfin tous les pays où il va passer comme ça, même s'ils sont sous le joug autrichien. Et puis l'Angleterre, évidemment, qui l'a accueilli et qui peut-être est le pays qui a le mieux servi Berlioz jusqu'à aujourd'hui.
Oui, parce que le roi de Hanovre, le roi de Prusse, le tsar le reçoivent, tandis que en France, sous la monarchie de Juillet, bon, il y a les princes royaux, les enfants, mais pas le roi, ou guerre.
Et non, guerre, et Berlioz va en souffrir. C'est une musique, il écrit ça à Liszt, c'est une musique qui nécessite des millions, mon cher. On a besoin de millions, et ça fera bien rire Wagner, parce que lui, il a son Louis II de Bavière qui va lui en apporter des millions.
Alors, vous le décrivez dirigeant avec un sabre, enfin, c'est quand même assez exceptionnel. Il avait une baguette classique, des gestes mesurés, c'était un grand chef?
Je pense que c'était un des plus grands chefs de son temps. Évidemment, on n'a pas l'enregistrement, mais il a dirigé beaucoup plus que ce qu'on imagine, et notamment Mozart. Berlioz a dirigé un grand répertoire.
Mais à qui peut-il être comparé?
Nous reprenons numéro 17. Qui a fait ça?
C'est moi, maître.
Et où vous croyez-vous?
À l'opéra, maître.
C'est amusant. Sortez! Mephisto, Marguerite, Faust, sortez! Je ne veux personne dans la salle lorsque je travaille. Je ne veux que Berlioz et moi. Voilà.
Est-ce qu'il a été cité, Melchisedec? Le voici, c'est Martial Singer.
Une puce gentille, chez un prince logeait, comme sa propre fille, le brave homme l'aimait. Et l'histoire l'assure, par son tailleur un jour, lui fit prendre mesure pour un habit de cour. L'insecte plein de joie, dès qu'il se fit parler, tord de velours de soie et de croix décorées. Si venir de province, ses frères et ses sœurs, qui va rendre du prince de fort le grand seigneur.
Dans la damnation de Faust, nous avons choisi à dessein non pas l'air de Melchisedec, mais la chanson de Melchisedec. Pourtant, d'habitude, on dit il faut surtout pas que Berlioz plaisante. Marie Dagout expliquait, il sait pas être gay. Bah si.
Oui, il sait être gay. On voit quand il raconte justement les fêtes en Italie, on a l'impression qu'il sait quand même bien s'amuser, Berlioz, ou même avec ses amis à Paris dans les mansardes le soir où il sort la guitare. Mais
ça, c'est un autoportrait de vous que vous faites aussi.
Oui, je crois que Berlioz s'est inspiré aussi là des traditions populaires, parce que la damnation de Faust a été précédée presque 20 ans plus tôt des 8 scènes de Faust où il y a la chanson du rat, la chanson du puce. Tout ça, c'est un petit peu des chansons de garde, c'est des chansons qu'on retrouve dans la campagne. Il y a des répertoires qui tournaient comme ça tout partout en France, et Berlioz a su puiser là-dedans, même s'il a ensuite effacé comme ça peu à peu les références.
Ses villes préférées en France, c'est pas Lyon.
Ses villes préférées, moi je crois que c'est Nice. Il a été très heureux à Nice et il est allé plusieurs fois. Alors malheureusement, à la fin de sa vie, c'est là qu'il finit presque. Berlioz, il va remonter à Paris, mais ce sera plus le même. Mais en tout cas, il aura eu de grands bonheurs à Nice, et c'est surtout Nice qui va l'empêcher de commettre l'irréparable quand il veut tuer sa fiancée Camille en revenant de la Villa Médicis à Rome, parce qu'elle partait avec un autre. Il a aimé Marseille, les calanques, il attendait le bateau pour Livourne. Il s'est baigné, Berlioz, on sait qu'il nageait, c'était un homme très très moderne et dans la vie.
Maintenant, nous voici sous le Second Empire. Oh, il aime bien le Second Empire, hein?
Oui,
qui
lui passe des commandes, en effet, même si après, c'est le problème avec Berlioz, c'est qu'il n'aura jamais exactement le succès ou la hauteur de ses rêves. Hein. Ce sera jamais réalisé à la hauteur de ses rêves.
Non, mais je veux dire que il n'a pas de parti en politique. Il est plutôt pour le statu quo.
Oui.
Il est plutôt pour Napoléon III. Il a de l'audace en musique.
Il a de l'audace en musique et il espère des princes qui vont le financer.
Alors, il y a une princesse qui va beaucoup l'aider à la préparation de son dernier grand œuvre, qui va commencer dès 1856 pour aboutir, est-ce le mot, en 1863. Il s'agit donc de l'opéra Les Troyens, dont la création va se heurter à l'hostilité implacable des directeurs de théâtre parisiens.
Le théâtre lyrique s'effraie des dimensions des Troyens qui dépassent largement ses capacités financières. Carvalho impose alors à Berlioz de renoncer à la première partie, la prise de Troie, et de se contenter de la création des Troyens à Carthage avec un prologue résumant l'action précédente. Ce n'est pas le seul sacrifice qu'il doit consentir.
Votre rhapsode, qui tient à la main une lyre à quatre cordes, justifie bien, je le sais, les quatre notes que fait entendre la harpe dans l'orchestre. Vous avez voulu faire un peu d'archéologie. Eh bien, ah, c'est dangereux. Cela fera rire. En effet, c'est bien risible. Ah, 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 un tétracorde, une lyre antique faisant quatre notes seulement. Ah, ah, ah. Voyons, voulez-vous me faire plaisir? Qu'est-ce encore? Supprimons Mercure. Ses ailes au talon et à la tête feront rire. On n'a jamais vu porter des ailes qu'aux épaules. Ah, l'on a vu des êtres à figure humaine porter des ailes aux épaules. Je l'ignorais, mais enfin je conçois que les ailes des talons feront rire. Ha, ha, ha. Et celles de la tête, bien plus encore. Ha, ha, ha. Comme on ne rencontre pas souvent Mercure dans les rues de Paris, supprimons Mercure.
Bref, de l'acte 1 et de l'acte 2, il reste que le prologue, dont il reste pas grand-chose. À la création,
oui.
Ça va être donné finalement en intégrale, comment et quand?
Oui, d'abord Berlioz, lui, de son vivant, il les connaîtra pas en entier. Il y aura que les Troyens à Carthage, c'est-à-dire la deuxième partie, le moment où ils sont vents. Et il va créer un prologue d'ailleurs un peu artificiel qui va se coller là pour pouvoir le jouer au théâtre lyrique. Et ce sera un de ses grands malheurs. Et puis, il va falloir attendre longtemps pour les avoir en entier. Et on les a pas souvent, ces Troyens, parce que c'est très difficile. Les rôles, les voix, Cassandre, Énée sont des rôles extrêmement difficiles. Il est difficile aussi quand on fait l'opéra tout entier, c'est 4h30, c'est magnifique, mais d'avoir une cohérence entre le moment à Troyes et le moment ensuite en voyage.
Nous avons choisi une version qui vient de Covent Garden dès 1957 sous la direction de Raphaël Kubelik. On donnait l'acte 1 et l'acte 2 dont vous disiez
la prise de Troyes
se passait à Troyes. Cassandre ne cesse de sonner l'alerte auprès des Troyens et des femmes troyennes et de les prévenir du danger. Ici, c'est Amy Schwartz.
«
vous de conclure, Bruno Messina, si on peut conclure sur Berlioz. Ah,
bah écoutez, Berlioz, il a inventé l'orchestre moderne, il a inventé la mélodie française, il est un grand européen avant l'heure, il circule partout, il est d'une modernité extraordinaire, il est encore vivant, il est encore jeune, il est encore à découvrir, Berlioz.
Mais ça fait 10 ans que vous êtes devenu berliozien, c'est d'ailleurs le mot. Mais avant, oui, vous en pensiez de tout ça?
Oh, je pensais de belles choses sur Berlioz, mais on le connaissait pas assez. Moi, je trouve, dans nos études, dans les conservatoires, on n'en parlait pas assez. Il faut oser Berlioz.
Mais sa renaissance en France, puisque c'est notre thème, Berlioz et la France, vous la dateriez de quand? Du film Sous l'occupation de Christian Jacques?
Christian Jacques, un beau symbole, déjà en 43, oui, parce qu'on fait une petite plaisanterie là aux Allemands, en leur montrant que Berlioz est un symbole de la France, et c'est un film beaucoup plus patriotique qu'on le croit. Et puis, 69, déjà, pour le centenaire de la mort, ça commence, et puis ça se développe, et aujourd'hui on a énormément de chefs français comme François-Xavier Roth, qui font Hervé Niquet, qui font un travail formidable autour de Berlioz.
Il me semble qu'il participe à votre année Berlioz. Votre festival Berlioz à la Côte Saint-André, ce sera au mois d'août.
Du 17 août au 1er septembre.
Voilà. Chez Actes Sud, vous allez me dire combien de pages Berlioz,
je sais pas moi non plus,
je sais, c'est mince. Enfin, ouais, je veux dire, c'est dense. Et puis, signalons l'intégrale Berlioz chez Warner, ça n'est pas un événement si courant. Cette émission a été préparée par l'équipe de la Marche de l'Histoire, Éline Canegulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, à la technique Antoine Teboul et Audrey Ripouille à la réalisation.